RCF. RCF, le béaba du christianisme.
Les jésuites sont les membres de la Compagnie de Jésus, l'ordre créé en 1540 par Ignace de Loyola et ses compagnons, est l'un des trois ordres les plus importants de l'Église catholique romaine. À l'origine de nombreux collèges, écoles ou universités à travers l'Europe et le monde, les jésuites sont réputés pour former les élites et évangéliser sur tous les continents. Mais qui est Saint Ignace, le fondateur de cet ordre religieux? Sur quoi reposent les exercices spirituels qui guident la vie des jésuites? Comment cette spiritualité se vit aujourd'hui? On en parle cette semaine dans le béaba du christianisme avec le père Nicolas Rousselot, le chapelain de l'église Saint Ignace à Paris.
Le béaba du christianisme, Pauline de Torsiac.
Nicolas Rousselot, bonjour.
Bonjour.
Alors, les jésuites célèbrent cette année les 500 ans de la conversion de Saint Ignace de Loyola. Qui est Saint Ignace de Loyola?
Mais c'est un fondateur. Et on pourrait retrouver d'abord qu'est-ce qu'un fondateur? Parce qu'on ne peut pas parler de quelqu'un dans l'Église sans resituer le grand mouvement qui nous vient de Jésus et des apôtres. Et très vite, on peut voir dans le groupe des apôtres trois vraiment personnes qu'on appelle les colonnes de l'Église. Alors, c'est surtout Pierre et Paul et Jean. Pierre, c'est le pôle, la succession apostolique. On va dire aujourd'hui le pape et les évêques, la structure, l'épine dorsale. Mais vous avez Paul et Jean, ce pôle, on va dire, mystique ou religieux ou charismatique, le pôle de l'esprit. Autant il y a le pôle du Christ, le lien visible, et puis l'esprit, on voit très bien Paul avec sa dimension missionnaire, et puis chez Jean, cette dimension plus mystique, plus intérieure. Et l'Église, que voulez-vous, elle s'appuie sur ces trois pôles, notamment les fondateurs. Il y a un moment de l'histoire du monde où il y a des craquements, il y a des passages d'une ère à une autre. Et souvent, notamment dans ce pôle mystique ou charismatique, ça va être des fondateurs, des hommes, des femmes qui vont faire une expérience spirituelle très profonde à un moment justement où il y a un craquement, il y a un passage d'une ère à une autre.
C'est le cas d'Ignace de Loyola.
Et c'est le cas d'Ignace. Mais alors, à mon avis, on ne peut pas comprendre Ignace si on ne comprend pas, par exemple, Benoît, si on ne comprend pas Dominique, qui vont être toujours un peu nos interlocuteurs privilégiés, un peu nos adversaires dans l'Église, et puis des gens comme Thérèse, et puis peut-être Saint-Vincent de Paul, et puis peut-être Charles de Foucault. Mais ça, j'en parle avec des pointillés, parce qu'il faut quand même des siècles de recul pour voir qu'est-ce qu'un fondateur.
Alors avant de fonder cette compagnie de Jésus, il y a cette fameuse conversion, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Saint Ignace?
Ben, il ne sait pas du tout qui va être un fondateur, hein. Et puis c'est un homme qui va être un militaire, pas exactement un militaire, on pourrait dire aujourd'hui il a fait l'ENA. Ça veut dire qu'il a été page, il a très bien appris le leadership, mais au moment 1521, il va prendre les armes, les Français vont arriver à Pampelune, ils ont profité que Charles Quint est revenu mettre la paix aux Pays-Bas. Et là, il va prendre le pouvoir, il va galvaniser les gens de Pampelune qui voulaient tout de suite se rendre. On voit que c'est un homme qui a un très grand ascendant sur les autres, mais il va être blessé et dès qu'il va tomber à terre, tout de suite, la ville de Pampelune va se rendre aux Français. Et chose un peu extraordinaire, c'est que les Français vont dire « Mais qu'est-ce que cet homme si courageux ?» Et ils vont prendre le temps de le raccompagner chez lui alors qu'il est quasi mourant. Il a eu une jambe fracassée par un boulet et l'autre bien abîmée. Ils vont d'abord l'opérer et puis ils vont le remettre chez lui, mais ça va être plusieurs jours de marche.
Et donc c'est là où...
C'est un peu une énigme. Hein.
C'est un peu une énigme, mais c'est là où tout s'écroule.
C'est un ennemi qui galvanise aussi ses adversaires.
C'est là que se fait sa conversion?
Alors sa conversion se fait, c'est vraiment une drôle d'histoire, se fait sur son lit de convalescence. Comme ce monsieur Ignace aimait beaucoup plaire aux dames, c'est vraiment le comte de Thierry espagnol dans toute sa grandeur et aussi son côté quand même extrêmement orgueilleux et narcissique. Et il va être furieux d'avoir une jambe plus courte que l'autre, donc il va demander qu'on recasse sa jambe, et il va souffrir le martyr, parce qu'après on va lui demander, il va demander qu'on l'allonge avec des espèces d'instruments de torture, des poulies, etc., sur son lit. Il ne va rien dire, il va serrer les dents, donc toujours un tempérament mais impressionnant, et il va s'ennuyer. Et il va demander, il est chez sa belle-sœur, qu'on lui apporte des livres. Les livres sont très rares, sont très chers à l'époque, et elle a que des livres pieux à lui donner, la vie des dessins de Jacques de Voragine, et puis autrement la vie de Ludolphe le Chartreux du Christ. Et à chaque fois, ces deux histoires qu'il va lire sont très imagées. Et comme il a un bon, on va dire un très bon imaginaire, il va s'engager dans des rêveries infinies. Et il
donc
va
déjà,
faire
il dessine les contours de la Compagnie de Jésus.
Pas du tout. Il est à 100 lieues. Lui, tout ce qu'il veut, c'est de conquérir le monde.
Alors comment il fait cette rencontre avec le Christ ?
Et dans la distraction. C'est ça qui est très étrange dans l'histoire de la spiritualité, même dans l'histoire de la vie religieuse mondiale, l'histoire des religions. Quand il va se mettre, il aimait beaucoup les romans de chevalerie, il va se mettre à la place du beau chevalier qui va livrer des combats pour sauver sa dame. Enfin, on est dans tout le roman courtois là, qu'on connaît bien aussi en France. Eh bien, il va s'enflammer, mais il va dire à la fin, je reste sec et mécontent. Et puis, faute de grive, il mange des mails, donc il prend les livres pieux, et puis il dit, mais si je vais faire comme d'autres fondateurs, par exemple comme Saint Benoît, ou comme Saint Dominique, ou alors comme les pères du désert d'Égypte, je vais faire des prouesses pour Dieu. Alors là, il s'enflamme aussi, il se voit. Et puis à la fois, il repère que ça dure. Il y a ce qu'il va appeler plus tard la consolation, cette paix, cette joie va durer. Et il va faire un calcul, mais vraiment un calcul. Là, il n'est pas du tout le saint. Il dit, ben moi, je veux que ça dure, en fait. Et qu'est-ce qui va se passer ? Il va maîtriser ce qu'il va appeler ses mouvements intérieurs, et il va suivre peu à peu ce qui lui donne plus de paix, plus de joie. Et en fait, c'est l'Esprit Saint en lui. Et quand il se relève, il est à peu près guéri, il boitera jusqu'à la fin de ses jours, mais c'est un autre homme, et c'est un homme converti. Il va partir comme pèlerin. Il veut aller à Jérusalem, il est encore dans le Moyen-Âge, et puis il va s'arrêter, il va prendre son temps, et il va passer quasiment 9 mois, le temps d'une naissance, dans une petite ville près de Barcelone qui s'appelle Morez. Et là, il va faire une expérience extrêmement profonde. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne peut pas la garder. Alors je vous la fais très vite. Il part ensuite à Jérusalem, il se fait chasser par les franciscains, puis il dit « qu'est-ce que c'est ce drôle de bonhomme ?» Mais il obéit à l'Église. Et il dit « dans mon discernement, toujours faudra que je sois pas... j'ai pas le dernier mot. » Et puis sur le bateau du retour, faut lire l'histoire, je dis ça aux auditeurs parce que c'est passionnant. Il dit quid agendum, qu'est-ce que je fais? Et il dit, il est sûr d'une chose, aider les âmes. Et puis il va reprendre des études, parce que pour parler de Dieu, il va avoir plein de procès avec l'Inquisition, je crois qu'il en a 6 ou 7. Et puis en donnant ce qu'il va appeler les exercices spirituels, ça veut dire qu'il a mis à peu près en structure, sur un papier, l'expérience qu'il a fait à Morez, dans cette petite ville. Et puis peu à peu, des gens vont se mettre autour de lui, quand il fera notamment ses études à Paris, dans le Quartier Latin. Et là va naître la Compagnie de Jésus. Mais voyez, par surcroît, ils se sont retrouvés ensemble. Ils sont là pour suivre le Christ. Ils savent qu'ils veulent aller à Jérusalem. Ils savent que si ça ne marche pas, ils vont se présenter au pape pour être envoyés. Et donc la Compagnie de Jésus, finalement, va naître d'un désir d'un groupe de 7 étudiants, dont François-Xavier, dont Pierre Favre. Et donc ils feront en 1534 un premier vœu à Saint-Pierre de Montmartre.
Thank you.
RCF, le béaba du christianisme.
Cette semaine, dans le béaba du christianisme, on s'intéresse à l'un des ordres religieux les plus importants de l'Église, la Compagnie de Jésus, dont est issu le pape François. On en parle avec vous, père Nicolas Rousselot. Vous êtes le chapelain de l'église Saint-Ignace à Paris. Vous venez de nous expliquer cette conversion de Saint-Ignace, la naissance de la Compagnie de Jésus, fondée finalement sur ces exercices spirituels structurés par Saint-Ignace. Qu'est-ce que c'est que ces exercices spirituels? En quoi ça consiste?
Ça semble un peu énigmatique, hein. Puis en gros, le monde se divise, on nous le reproche parfois, entre ceux qui ont fait les exercices et ceux qui ne les ont pas faits. Donc ça semblerait un peu élitiste. Et ça, je trouve que c'est à la fois un mythe, mais c'est vraiment dommage. C'est une expérience très profonde. Saint Ignace a dit à un moment que dans sa conversion très progressive, comme je vous l'ai montré, Dieu agissait avec lui comme un maître d'école agit avec ses élèves. Et vraiment, sa pépite d'or, c'est qu'il a compris comment Dieu s'y prenait avec lui, et il croit que Dieu s'y prend avec chacun, chacune d'entre nous, selon un mode qui est propre. Regardez comme le Christ se montre. Il dit à Marie-Madeleine, qui est trop affective, « Ne me touche pas », mais il va dire à Thomas, « Touche-moi ». Il va dire à Jean, rien du tout, mais Jean qui est intuitif, il vit et il crut en entrant dans le tombeau, alors que Pierre est massif, c'est le bon pêcheur de Galilée, il va prendre un certain temps à réaliser que le Christ est ressuscité. Dieu s'y prend d'une manière, c'est là une façon de nous aimer, exactement comme nous sommes, mais il souhaite nous faire un chemin. Eh bien, Saint Ignace a cette intuition, et les exercices, c'est un cheminement très structuré, mais qui s'adapte à chacun. Je vous donne un exemple, un de mes bons amis qui est Carme Deschaux, ça veut dire un compagnon de Saint Jean de la Croix et de Sainte Thérèse, à un moment de sa vie, alors qu'il avait fait un grand chemin, il a même fait au moins 2 thèses, il m'a dit « j'ai fait les exercices spirituels pendant 30 jours et je suis devenu plus Carme qu'avant ». Ça, c'est formidable. Une prieure dominicaine, je ne donnerai pas le nom de son couvent, a fait un jour les exercices, même chose, cette grande aventure spirituelle, elle est devenue plus dominicaine.
Donc c'est une grande satisfaction pour les jésuites, ça, alors.
Et au point que les papes successifs nous ont dit, ça ne vous appartient pas, même si ça vient de votre fondateur, c'est un bien d'église.
Alors pour qu'on comprenne bien, de manière un peu concrète, hein, pour nos auditeurs, ça se structure comment, où est-ce qu'on va avec ces exercices spirituels, ça consiste en quoi?
Alors on peut faire des exercices, et on peut faire les exercices. Les exercices, donc, c'est sur une période très longue. C'est si vous voulez, c'est autrefois, il y a encore 20-30 ans, on pouvait, si on était laïque, prendre un mois. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il faut toujours les adapter. Mais c'est un investissement en temps et en don de soi pour essayer d'écouter, d'entamer un dialogue progressif avec Dieu, pour qu'on trouve vraiment notre lieu, vraiment personnel, notre mission dans le monde. C'est un moment de retraite, mais pour se recevoir de nouveau dans ce que notre baptême va signifier pour le monde. On a chacun une mission à remplir. Si on le dit souvent même aux personnes qui ont un handicap, si tu n'es pas là, il va manquer quelque chose au monde. C'est un pari incroyable, mais nous avons tous une pierre à apporter. Eh bien, je crois que les exercices servent à ça, c'est à faire élection, c'est à voir où le Seigneur, je vais faire alliance avec lui et où ça va être la meilleure place pour moi et pour lui et pour le monde d'accomplir ma mission.
C'est une expérience intérieure qui doit permettre justement d'aller à la rencontre de l'autre, c'est ça un petit peu l'idée?
De se retrouver soi-même. Comme je suis le plus image à l'image de mon Créateur. Je suis plus moi-même à l'image de mon Créateur. Ça veut dire libre et capable d'aimer. Et donc ça suppose une grande conversion. On entre dans les exercices en étant d'abord reposé, pas avoir trop de soucis. Mais souvent nous avons une question. Une question qui peut être les grands choix de vie, mais qui peut être aussi une question, tiens, je dois me reconvertir. Beaucoup de gens cherchent, parce qu'il n'y a pas assez de sens dans leur profession, là où ils sont. En ce moment, beaucoup de gens veulent quitter la ville Et je crois que les exercices sont un lieu pour... Je dépose le moteur d'une certaine manière, je relis ma vie. Qu'est-ce qui m'a animé depuis le temps où j'ai vraiment pris ma vie en main jusqu'à aujourd'hui? Une sorte, avec trois guillemets, une sorte de psychanalyse spirituelle quand même. Et je retrouve finalement mes pierres lumineuses, mes consolations, et puis mes pierres aussi sombres. Parce que si je voyais que mes pierres lumineuses, pour certains c'est très très difficile de voir les consolations, les pierres lumineuses, qui les a fait grandir, parce que tout est noir dans leur vie. Et d'autres auront peut-être un peu plus de mal à voir leurs pierres négatives. Et donc là, il y a à célébrer la façon dont Dieu m'a mené jusqu'à aujourd'hui. Quelquefois, ça peut prendre beaucoup de temps. Il ne faut pas se raconter d'histoire aussi. Et puis après, il y a une conversion qui se passe. Ça veut dire Dieu, dans les moments si difficiles de ma vie, dans les moments de précipice, la façon dont il m'a sauvé. Et il me sauve encore parce qu'il y a mon péché qui m'est révélé, mais toujours sur fond de lumière. Il y a de l'ombre dans ma vie, je peux la voir, c'est une grâce, parce qu'il y a du soleil. Si vous n'avez pas vu le soleil, faut vraiment pas, vous ne pouvez pas faire vraiment cette expérience de Dieu profonde. La consolation est toujours première, dira saint Ignace.
La consolation, est-ce que ces exercices, vous les appliquez quotidiennement à vous? Est-ce qu'il y a une rigueur au sein même de la Compagnie de Jésus, justement, pour les mettre en œuvre, ces exercices?
Ça donne une façon de voir le monde et de voir notre vie sans s'auto-centrer. À mon avis, c'est le grand risque. Parce que dès que vous commencez à regarder votre vie, vous regardez le nombril et vous perdez le Dieu de vue. Et là, tout ce que je vous ai dit, c'est ce qu'on appelle la première semaine. C'est le temps de la conversion en faisant mémoire du bien reçu et recevoir vraiment la conversion comme un fruit, pas de façon volontariste du tout. Et puis là, Ignace nous fait passer par des chemins vraiment très très originaux qui datent quand même de 5 siècles, donc faut bien les comprendre. Et puis après, vous êtes libre pour suivre Jésus. Et là, on suit l'évangile, on le suit avec les apôtres, on le suit aussi dans les événements de son enfance. Et puis peu à peu, il y a un moment, vous vous rappelez, où Jésus va accompagner ses parents à Jérusalem pour être présenté au temple, et puis il va faire une fugue. Et là, Ignace dit, soit il reste aux affaires du Père, soit il revient à la vie de Nazareth. Et il y a comme une fourche. Et dans ta vie, est-ce que tu es appelé à te consacrer à Dieu dans différents états de vie? Soit tu vas faire ta vie dans le monde, quoi, en fondant une famille, un couple, etc. Et donc là, tout en suivant Jésus, il y a ce qu'on appelle ce processus d'élection qui vient tout doucement pour les grands choix de vie. Et moi-même, j'ai été prêtre diocésain dans l'Ouest. À un moment de ma vie, il fallait réordonner tout ça. J'étais un hyperactif. J'ai fait le pari de prendre mon temps de vacances, mon mois de vacances, pour faire les exercices spirituels. C'était à Lyon, au Châtelard. Et voilà que, pendant le temps de l'élection, je vois quelque chose qui remonte comme un sous-marin hors de l'eau. Et dans Tintin, quelquefois, on voit les sous-marins apparaître. Je dis, qu'est-ce que... C'était vraiment mon désir que je ne connaissais pas moi-même, mais Dieu me faisait la grâce de le révéler. Et c'est comme ça que j'ai basculé dans la vie religieuse.
D'accord, la conversion permet de poser des choix, cette conversion.
Oui, mais quelquefois des choix dont vous n'aviez pas conscience. J'ai réalisé plus tard que mon choix de suivre le Christ à l'âge de 6 ans, je vous raconte un petit peu ma vie perso, là, mais c'était un appel à la vie religieuse. Et je me suis rendu compte sur le tard que j'avais, dans ma famille, je dois être le 5e jésuite, j'avais complètement oublié. Il y a des points aveugles dans la vie. Et en fait, Dieu, c'est pas Dieu qui a un plan pour moi, c'est il révèle mon désir que je ne connais pas moi-même. Et c'est là où vous dites, mais on est des milliards dans le monde, depuis l'histoire de l'humanité. Et Dieu a une histoire perso avec nous, une alliance. Ça, c'est extraordinaire. Et ça ne vous laisse pas indemne.
Alors, vous le disiez, il y a une forme de psychanalyse.
Ouais,
comment on fait le lien,
Comment on fait le lien,
justement, avec Dieux? Comment est-ce que... Est-ce qu'il y a ce lien qui se
tisse? Oui, alors c'est pas une psychanalyse, parce que le psychanalyste, c'est entre un analyste et puis un patient, et puis il est malade, on est tous malades, on a tous besoin d'être sauvés. Mais là, il y a un tiers, et l'accompagnateur est juste là pour nous dire, c'est ça ce que tu entends dans ta prière, ce que le Seigneur te dit, ou alors là, fais gaffe, il y a quelque chose de... Il y a un peu de l'imaginaire là, où il y a un chausse-trappe, il y a un piège, un peu comme le GPS, allez, reviens à l'endroit et puis reprends ta route. Parce que c'est quand même compliqué. enfin, compliqué, c'est mystérieux de savoir ce que je dis, moi, du fond de moi, et non pas mon ego, par exemple, qui parle, et puis ce que j'entends par la parole de Dieu, est-ce que ça vient vraiment de Dieu, ou je me raconte des histoires, ou c'est mon surmoi, pour reprendre des mots un peu connus de la psychologie.
RCF, Pauline de Torsiac.
C'est l'un des plus importants ordres religieux de l'Église catholique romaine. La Compagnie de Jésus est déployée à travers le monde entier. Les jésuites sont réputés pour former les élites et évangéliser sur tous les continents. On vient de parler également des exercices spirituels de Saint Ignace qui caractérisent aussi finalement la spiritualité de la Compagnie de Jésus, des jésuites. On en parle avec vous, Père Nicolas Rousselot. Vous êtes chapelain de l'église Saint Ignace à Paris. Qu'est-ce que ça signifie être compagnon de Jésus aujourd'hui? Quels sont finalement les axes pour un jésuite dans sa mission?
Oui, je vous arrête tout de suite, excusez-moi, vous dites pour former les élites, c'est pas l'intention d'Ignace. Enfin,
c'est ce
on
qui
dirait aujourd'hui, c'est ce qui ressort de l'histoire et un peu du mythe aussi. Mais il est vrai que la question, c'est collaborer avec Dieu qui veut transformer notre monde. En gros, c'est ça notre job, l'intuition du Père Ignace. Et donc, on peut pas transformer le monde si on n'est pas auprès des décideurs. On les appelait à un moment les agents multiplicateurs, démultiplicateurs. Et il est vrai que les exercices dont on vient de parler, s'il y a un directeur de banque qui fait les exercices, ben il ne va pas les faire de la même manière en sortant de sa retraite, hein, ça c'est évident. Surtout, ça vous marque dans votre affectivité profonde, c'est cette rencontre avec Dieu très prolongée et qui vous prend tout entier, et puis qui se déploie après la retraite. Mais Saint Ignace est un homme vraiment de tension, il dit il faut aller à la fois vers les leaders, mais aller aussi auprès de ceux dont personne ne s'occupe.
Les plus pauvres.
Et quand on regarde, c'est assez étrange, hein, mais quand on regarde l'histoire de la compagnie, on verra des hommes de réconciliation, par exemple, près des détenus, dans les villages italiens où il y avait de la vente d'État insupportable, personne ne voulait y aller, entre les catholiques et les protestants en Allemagne ou près du Puy-en-Velay avec Saint Jean-François Régis chez nous. Il y a tout ce ministère qui est assez peu connu malheureusement et qui, c'est vrai, n'est pas forcément reluisant pour le mythe parce que c'est un ministère beaucoup plus caché. Par exemple, toujours un jésuite était auprès des galériens. Et encore aujourd'hui, on le voit dans nos préférences apostoliques, il y a une prédilection pour les gens, vous avez bien entendu le pape François, pour les migrants. Alors bien sûr, ça vient de son histoire personnelle parce que lui-même vient d'une famille de migrants d'Italie. Ils sont partis en Amérique du Sud avec beaucoup de tracas. Donc il vit ça dans sa chair, mais c'est réellement dans la tradition de la compagnie.
D'être présent auprès des réfugiés notamment.
Des réfugiés, ça a été une intuition du Père Aroupé, mais on le voit à travers les siècles. Ce dont personne s'occupe, c'est notre mission première.
Donc marcher aux côtés des pauvres, des personnes blessées dans leur dignité, c'est ça l'un des axes, une des préférences apostoliques. Oui. Quelles sont les autres? Parce qu'on est, voilà, on est en 2021, est-ce qu'elles évoluent et est-ce que, comment vous dessinez ces préférences?
Alors, pour vous donner un tout petit aperçu, le père général précédent, le père Kolvenbach, enfin un de des pères précédents, avait dit on va s'occuper principalement, par exemple, de la Chine, de l'Afrique, toujours des réfugiés, mais aussi de la formation de nos maisons romaines, parce que beaucoup de prêtres qui deviendront évêques, par exemple, viennent à l'université grégorienne. Donc là, ça a été, il y a des choses très ciblées. Mais là, ce qui est nouveau, avec le père Arturo Sosa, notre père général, il nous demande que ce soit toute la compagnie qui prenne en charge nos préférences. Oui.
Donc il y a des préférences qui restent, on va dire, un petit peu toujours les mêmes, l'attention aux pauvres, vous le disiez.
Oui, la première, ça va être montrer la voie de Dieu à chacun selon les exercices spirituels, ce dont on vient de parler.
Ça, c'est la base.
C'est difficile. Et puis, cette première préférence va innerver les trois autres. Et la deuxième, ça va être marcher aux côtés des pauvres et des exclus. Et l'idée d'un cheminement, toujours l'idée d'aider les âmes, pas faire à leur place. Et on sait que si je suis marginalisé, je reprendrai ma dignité si je deviens acteur de ma vie. Là aussi, ça vient directement de Saint-Ignace, cette pédagogie. Et puis ensuite, la troisième préférence, ce sera la question des jeunes, les accompagner dans la création d'un avenir porteur d'espérance. Et là, on peut dire que, notamment dans les pays musulmans ou dans des pays comme l'Inde, il y a beaucoup de jésuites qui sont avec des non-chrétiens. Et l'idée que la jeunesse porte l'espoir du monde, l'espérance du monde, est capitale. On sait que maintenant, on peut dire, si vous êtes d'avant la pliure ou après la pliure, tellement le monde a changé. Et là, on nous demande d'être avec ceux qui sont d'après la pliure, même si nous, on était d'avant la pliure.
Il faut s'adapter.
Ça, c'est une question.
Et puis, il y a la préférence, il y a l'enjeu écologique qui est présent aussi.
Oui, ça, c'est une grande idée de Laudato Si, une grande idée du pape François. Il y a quelque chose qui est un travail commun pour sauvegarder la maison commune. Et cette écologie, on la comprend comme une humanisation, pas seulement un lien seulement avec la nature, mais quand on parle de la création, ça va être la place de l'humain. Et c'est un thème inépuisable.
Finalement, ce qui anime les jésuites au quotidien, c'est à la fois cette intériorité, cette relation à Dieu, mais aussi cette présence au monde tel qu'il est. C'est ça l'enjeu, finalement.
La spiritualité, on dit, c'est une mystique de service. C'est-à-dire que je me plonge en Dieu pour voir où et comment je vais collaborer avec lui pour la transformation du monde. Avec cet regard du monde qui n'est pas naïf, mais qui a une nuance de respect et d'admiration. C'est le verbe reflectar en espagnol qui dit ben, je me laisse imprégner par ce qui se passe dans le monde, comme un miroir peut refléter la lumière, mais avec cette nuance de, à la fois de respect, d'admiration, de retrait aussi pour bien comprendre ce qui se passe. Donc il y a notre dimension critique qui est là, mais avec une nuance d'admiration, mais pour aller sur le terrain.
C'est important.
On essaye de tenir tout.
C'est un équilibre qui n'est pas facile.
La contemplation, la réflexion et l'action. Et ces trois termes vont se féconder mutuellement.
Et c'est une tension permanente aussi, j'imagine.
C'est une tension. Alors, quand on dit une tension, on est des gens tendus, ce serait vraiment dommage. Hein. Mais c'est une remise en cause permanente. Enfin, j'essaye, nous essayons pauvrement de le vivre comme cela.
Père Nicolas Rousselot, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le chapelain de l'église Saint-Ignace à Paris. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur rcf.fr. À bientôt.